Bonjour à tous, merci d'écouter RFI. Il est 11h30 en temps universel, midi et demi ici à Paris.
RFI Midi, Anne Cantner.
RFI Midi, 2 heures ensemble avec nos correspondants, avec nos envoyés spéciaux partout dans le monde. Et aujourd'hui encore, 4 mars, c'est Donald Trump qui donne le rythme de l'actualité mondiale avec des décisions chocs qui n'épargnent pas ses alliés traditionnels. L'aide militaire à l'Ukraine est suspendue. Nous verrons avec notre invité dans 3 quarts d'heure ce que cela signifie pour la suite du conflit, alors que l'Union européenne, elle, tente de mettre en place une défense commune. La présidente de la Commission vient de dévoiler un plan de près de 800 milliards d'euros. On vous en dit plus dans un instant dans notre demi-heure européenne. Donald Trump met aussi sa menace à exécution et impose des droits de douane bien plus élevés qu'avant à la Chine, mais aussi au Canada et au Mexique. Et cela inquiète aussi aux États-Unis, à Détroit notamment, où l'industrie automobile risque de souffrir s'il faut relocaliser tout ce qui a été installé de l'autre côté de la frontière.
Nous ne serons pas capables de ramener autant de production. La manœuvre est devenue trop chère. Il y a certainement un plus grand risque de récession qu'il y a un an ou deux. Cela va être très déstabilisant.
Reportage à Détroit à écouter à partir de 13h temps universel. On se penchera aussi sur les conséquences pour les agriculteurs américains. À midi et demi, l'actualité africaine marquée par l'ouverture du procès de dizaines de personnes à Tunis. Procès pour complot qui concerne des voix dissidentes, dont de grands noms de l'opposition. Nous appellerons notre correspondante et nous recevrons un membre du comité pour le respect des libertés et des droits de l'homme en Tunisie, qui fait partie des personnes poursuivies et qui comparaît libre. Vous avez le programme. Bienvenue.
RFI, l'Europe à midi.
Le président américain accentue encore la pression sur Volodymyr Zelensky après une humiliation jamais vue par les diplomates vendredi à la Maison-Blanche. Après les accusations et les injures, Donald Trump a décidé de suspendre l'aide militaire américaine fournie à l'Ukraine. Il l'a annoncé hier soir. La situation est très grave, déplore le gouvernement polonais, alors que la présidence ukrainienne se dit prête à négocier une reprise de l'aide américaine. Précision apportée alors qu'hier encore, Volodymyr Zelensky demandait des garanties de la part des États-Unis et des autres alliés de son pays.
Мир нам потрібен, саме мир.
Nous avons besoin de paix, d'une paix réelle et honnête, et non d'une guerre sans fin. Et nous avons besoin de garanties de sécurité. C'est l'absence de garanties de sécurité pour l'Ukraine, il y a 11 ans, qui a permis à la Russie de lancer l'occupation de la Crimée et la guerre dans le Donbass. Et maintenant, en raison du manque de garanties de sécurité définies, la Russie maintient cette guerre à plein régime. Nous avons poursuivi notre travail avec nos partenaires européens sur une architecture diplomatique et de sécurité particulière. C'est notamment ce dont nous avions parlé la veille à Londres, et avant cela, avec de nombreux dirigeants mondiaux.
Volodymyr Zelensky faisait allusion au sommet organisé dimanche à Londres. Il y en aura un autre jeudi à Bruxelles, en présence du président ukrainien pour parler de ces fameuses garanties de sécurité et des moyens de défense. Et ce matin, la présidente de la Commission européenne présente un plan pour le secteur, près de 800 milliards d'euros. Daniel Valo, l'ambition européenne se précise avec ce projet qu'Ursula von der Leyen présente comme un plan de réarmement de l'Europe.
Oui, la présidente de la Commission qui a adressé aujourd'hui un courrier aux dirigeants de l'UE juste avant ce sommet européen extraordinaire et qui a donc dévoilé publiquement ses propositions, tout cela dans le contexte bien entendu de la guerre en Ukraine, mais aussi et surtout de ce qui est en train de se passer avec Washington, la reprise du dialogue avec Moscou, la dégradation brutale des relations entre Trump et Zelensky et cette décision cette nuit du président américain de suspendre donc l'aide à l'Ukraine. Dans cette situation, l'Europe doit réagir, elle doit réagir rapidement et c'est ce qu'a déclaré ce matin Ursula von der Leyen. Je vous propose d'écouter tout de suite un court extrait de sa déclaration.
We are in an era of rearmament.
Nous sommes à l'ère du réarmement et l'Europe est prête à augmenter massivement ses dépenses de défense, à la fois pour soutenir l'Ukraine, mais aussi pour assumer sur le long terme notre propre sécurité européenne. Le programme Réarmer l'Europe pourrait mobiliser jusqu'à 800 milliards d'euros pour une Europe sûre. Bien entendu, nous continuerons à travailler étroitement avec nos partenaires de l'OTAN. L'heure de l'Europe a sonné et nous sommes prêts à relever le défi.
And we are ready to step up. Alors concrètement, Daniel, quelles sont les propositions d'Ursula von der Leyen et comment est-ce qu'elle arrive à ce chiffre de 800 milliards d'euros ?
Eh bien, la présidente de la Commission propose d'abord un nouvel emprunt commun à hauteur de 150 milliards d'euros, des fonds qui devraient aller en priorité aux domaines considérés comme les plus urgents, la défense antiaérienne, les missiles, les drones et les systèmes anti-drones ou encore les systèmes d'artillerie, autant de secteurs où les pays européens manquent de capacité et dépendent en outre de l'industrie américaine de défense, car l'idée, c'est également de renforcer l'industrie européenne. Et pour cela, dixit la présidente de la Commission, les États membres devront regrouper leurs demandes et acheter ensemble. Autre proposition d'Ursula von der Leyen, et elle est très importante, l'Europe pourrait autoriser ses États membres à sortir les dépenses d'armement du pacte de stabilité. Vous savez, ce fameux plafond des 3% de PIB qui doit limiter les déficits publics. Eh bien, les États européens pourront augmenter leurs dépenses de défense sans déclencher les foudres de l'Union européenne. C'est ce que propose ce matin Ursula von der Leyen.
La présidente de la Commission qui veut aussi utiliser les fonds de cohésion pour doper la défense européenne.
Oui, des fonds qui sont censés être utilisés pour réduire les inégalités entre les pays membres de l'Union. Typiquement, ils servent à construire des routes ou des ponts. Mais face à l'urgence géopolitique actuelle, face à la menace russe d'un côté et au lâchage de l'allié américain de l'autre, eh bien, Ursula von der Leyen propose que ces fonds puissent être utilisés également pour les dépenses d'armement. Ces fonds pour les périodes 2021-2027 représente un peu moins de 400 milliards d'euros. Dernière piste avancée par la Commission ce matin, autoriser la Banque européenne d'investissement à financer des projets de défense, ce qu'elle n'a pas le droit de faire actuellement. Enfin, mobiliser davantage le secteur privé pour le financement des dépenses d'armement.
Des propositions qui seront donc examinées dès demain à Bruxelles par les dirigeants de l'Union européenne.
Oui, avec ce sommet extraordinaire convoqué dans l'urgence pour faire face à la nouvelle donne géopolitique provoquée par Donald Trump. Il sera question, bien sûr, de l'aide à l'Ukraine. L'Europe aura-t-elle des solutions pour supplier l'aide américaine suspendue ? Et il sera question aussi de la défense des pays européens eux-mêmes, avec des décisions qui auraient pris en temps normal des mois et peut-être même des années et qui pourraient être prises très rapidement. On assiste, en effet, depuis quelques semaines à une accélération brutale de l'histoire avec une remise en question spectaculaire de l'Alliance transatlantique, des pays qui auraient été a priori hostiles à la plupart des idées avancées ce matin par Ursula von der Leyen, soit par atlantisme, soit par orthodoxie budgétaire, pourraient ainsi accepter ce qu'ils auraient refusé auparavant.
Daniel Valo, et alors que le soutien à l'Ukraine se réorganise avec une très grande incertitude sur la position des États-Unis à l'avenir, la guerre se poursuit, l'armée ukrainienne recule de plus en plus dans l'Est et la Russie maintient sa stratégie de terreur. La terreur, c'est le terme utilisé par Amnesty International dans un nouveau rapport. En s'appuyant sur plus d'une centaine de témoignages, l'organisation établit que les forces russes torturent systématiquement et infligent de mauvais traitements aux détenus ukrainiens, qu'ils soient militaires ou civils. Émeric Éluin est chargé de plaidoyer pour Amnesty.
Si l'on prend par exemple en compte le cas des détenus civils qui ont fait l'objet de disparitions forcées, c'est une façon de maintenir la terreur sur les zones occupées par la Russie et d'envoyer un signal aux autres, aux Ukrainiens encore présents. Regardez ce qui va vous arriver si jamais vous levez le petit doigt. Concernant les prisonniers de guerre, c'est une façon aussi de déstabiliser l'adversaire. C'est une façon de dénier une forme de responsabilité dans ce qui s'est passé. Mais c'est surtout un instrument, oui, de déstabilisation et de contribuer à semer sur les arrières de l'Ukraine une forme d'inquiétude supplémentaire, de peur et de peur permanente sur le devenir de vos proches, parce que, encore une fois, jour après jour, vous passez votre temps à chercher de l'information sur vos proches qui ont disparu et vous n'avez aucune nouvelle. Donc, vous maintenez une épée de Damoclès en permanence au-dessus de ces populations civiles qui sont en arrière du front.
Émeric Éluin, chargé de plaidoyer pour Amnesty International. Et c'est le moment qu'a choisi l'administration Trump pour desserrer l'étau contre la Russie, estimant que Moscou ne représentait plus une menace pour la sécurité informatique des États-Unis. Dominique Dezonnet, cette décision, elle inquiète beaucoup, particulièrement en Europe, où plusieurs attaques ou opérations d'influence ont été repérées ces derniers mois.
Oui, logiciel malveillant pour effacer les données, attaque par déni de service sur des serveurs informatiques, opérations de désinformation, d'ingérence dans les élections, d'espionnage en ligne et des actions de sabotage sur les câbles optiques en mer Baltique, moins visibles que les offensives militaires de terrain de la Russie en Ukraine. Les assauts contre les infrastructures numériques de l'Europe pullulent depuis quelques années déjà. Et dans cette guerre hybride, l'armée des trolls de Poutine, qui était composée, on le rappelle, à l'origine à la fois d'influenceurs en ligne pro-Moscou et de cybercriminels, s'est aujourd'hui largement professionnalisée. Le cyber est ainsi devenu au fil du conflit une arme d'emploi pour le Kremlin. Toutefois, les attaques informatiques de Moscou étaient jusqu'à présent limitées ou encore discrètes afin de ne pas risquer des représailles massives de l'Europe et des États-Unis en cas de destruction majeure des infrastructures numériques du vieux continent.
Mais comme dans le domaine militaire, le président Trump a annoncé qu'il retirait de sa liste les menaces de guerre cyber, la Russie.
Effectivement, et cette pause dans la cybersécurité intervient alors que Donald Trump est en train d'accomplir, on le remarque, un rapprochement avec Moscou sur la guerre en Ukraine. Comme le reste de ses annonces, revirement dans la protection des infrastructures numériques a été décidé sans concertation avec les Européens. Toutefois, l'UE a déjà les capacités d'augmenter ses défenses cyber, estime Sébastien Garnot, fondateur de Paris Cyber Summit et du cercle de réflexion Cyber Task Force, une plateforme de discussion publique-privée créé pour organiser les réponses aux attaques informatiques, qu'elles soient d'origine étatique ou crapuleuse.
Je suis plus dubitatif qu'inquiet parce que finalement, la menace qui existait hier sera toujours présente demain. Effectivement, les capacités américaines étaient importantes et sont importantes, et notamment l'agence CISA, qui est l'agence nationale de cybersécurité. Aujourd'hui, ils vont moins surveiller, mais nous, on a des outils au niveau européen pour faire face. La question, c'est dans quelle mesure on va les utiliser ensemble.
Et afin de mieux anticiper les agressions des pirates pro-Poutine, l'Europe, Dominique, avait décidé de mettre en place un cyberbouclier.
Oui, une détection des attaques qui a été confiée à un réseau européen de 7 centres opérationnels équipés de supercalculateurs et de systèmes d'intelligence artificielle. Ce système d'alerte se fera désormais sans le concours de l'administration américaine. L'évaluation revue à la baisse de Donald Trump de la menace russe sur les infrastructures numériques tant aux États-Unis qu'en Europe est exactement aux antipodes pourtant de ce que préconisaient les services de renseignements américains encore récemment.
Dominique Dezonnet.
RFI Midi, Anne Contner.
Un coup d'œil à la presse européenne avec ce titre du Frankfurter Allgemeine Zeitung. Encore un service d'amis pour Poutine. Toute la presse du continent revient sur cette décision donc de Donald Trump de suspendre l'aide militaire à l'Ukraine. Donald Trump serre la vis à Kiev jusqu'à faire gicler le sang, écrit le journal allemand. Volodymyr Zelensky va devoir se mettre à genoux, mais l'Europe doit s'armer pour le cas où Trump continuerait ainsi. Cela aurait été un pur miracle s'il s'était contenté de crier au président ukrainien qu'il pouvait revenir après l'esclandre de vendredi dernier, s'il était prêt à faire la paix avec Poutine. Mais ce n'est pas le genre de Trump, écrit le Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui ne supporte pas la contradiction et qui a réagi toute sa vie professionnelle à la résistance par l'escalade. De son côté, The Guardian constate que Donald Trump a complètement changé les règles d'engagement et en déduit, les dirigeants du monde doivent l'apprendre et vite. La démocratie la plus admirée au monde, poursuit le quotidien britannique, est prise en otage par une clique de voyous d'extrême droite. Ce serait une erreur de les apaiser. Enfin, El País donne la parole au célèbre joueur d'échecs russe Garry Kasparov, aujourd'hui l'un des plus fervents opposants au président russe. Et lui estime, sans aucun embâge, que Poutine violera le pacte quand il le jugera bon. C'est ce qu'il a fait des dizaines de fois, estime celui qui a été champion du monde pendant 2 décennies.
RFI, l'Europe à midi.
Dans une Europe qui durcit de plus en plus ses politiques migratoires, la justice européenne se penche sur les pratiques de 3 nouveaux pays. Après la Grèce, condamnée en janvier pour avoir repoussé vers la Turquie des migrants qui auraient dû être secourus en mer et accueillis, ce sont la Pologne, la Lettonie et la Lituanie qui sont visées. Les motifs sont les mêmes, refoulement illégal, sans étudier les demandes d'asile. La différence, Wilhelm Munoz-Boileau, c'est que ces 3 pays assument et qu'ils se justifient devant la Cour européenne des droits de l'homme.
La Cour.
Les 3 audiences étaient programmées dans la même journée et c'est la Pologne qui s'est retrouvée la première sur le banc des accusés. Les plaignants, 32 réfugiés afghans dont 2 femmes, ne sont pas présents car tous ont été renvoyés en Afghanistan. Fin 2021, fuyant le régime des talibans, ils avaient cherché à entrer en Pologne pour y demander l'asile, mais en ont été illégalement refoulés, comme le raconte l'une de leurs avocates, Małgorzata Jawińska.
La Pologne a volontairement et systématiquement ignoré leur demande d'asile et elle a restreint leur accès à un avocat au mépris des normes internationales. Les requérants ont été expulsés de façon sommaire. Les gardes-frontières polonais les ont délibérément abandonnés au milieu de la forêt, désorientés, sans carte, ni matériel, nourriture ou eau potable.
Les mêmes procédés sont décrits dans les deux autres affaires traitées ce jour-là. L'une concerne 4 Cubains refoulés par la Lituanie, l'autre 26 Kurdes irakiens refoulés par la Lettonie. Tous étaient pourtant des demandeurs d'asile. Dans certains cas, les pays contestent leur responsabilité, évoquant l'absence formelle de demande d'asile. Un argument fallacieux selon Naomi Hart, avocate des Kurdes irakiens dans l'affaire Letton.
Pourquoi n'existe-t-il aucun enregistrement officiel de ces demandes? C'est parce qu'il y avait une pratique systémique de la part d'agents lettons qui tout simplement n'acceptait pas de demande d'asile. Cette pratique a été signalée par des tiers indépendants comme le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et Amnesty International. Mais selon la jurisprudence de cette cour, même si une personne ne fait pas de demande d'asile, les États ont l'obligation d'évaluer si elle est exposée à un risque en cas de refoulement. C'est ce que la Lettonie n'a pas fait.
Autre point commun aux trois affaires, la violence qui a accompagné ces refoulements, comme le rapporte Naomi Hart.
Chaque nuit, les agents lettons réveillaient les requérants qui se trouvaient dans des abris de fortune pour les expulser vers la Biélorussie. Parfois, ils séparaient les membres d'une même famille, augmentant leur angoisse. Des requérants ont dû s'agenouiller sous la pluie pendant 4 heures. Des électrochocs étaient appliqués sur les têtes et les parties génitales. Et de la violence gratuite était utilisée pour des actes mineurs de désobéissance. L'objectif était vraisemblablement de forcer les requérants à abandonner leur demande d'asile. Ces traitements peuvent être qualifiés d'inhumains et de dégradants, voire de torture, en violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Si les pays accusés ont affirmé ne tolérer aucun acte de maltraitance, ils ont toutefois justifié le recours dans certains cas au refoulement de demandeurs d'asile, à l'instar d'Elina Vitola, représentante du gouvernement letton.
Depuis 2021, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne doivent faire face à l'afflux soudain de ressortissants de pays tiers à leurs frontières avec la Biélorussie. Il ne s'agit pas d'une crise migratoire conventionnelle, mais d'une tentative délibérée de la Biélorussie pour déstabiliser l'Union européenne et ses États membres. Il s'agit d'une guerre hybride organisée par la Russie et la Biélorussie et qui constitue un risque pour notre sécurité. Les États doivent donc pouvoir prendre des mesures pour se protéger.
Une position partagée par la Finlande qui avait envoyé une délégation. Ses représentants sont d'ailleurs intervenus dans les trois audiences.
La Finlande a, elle aussi, été témoin de l'instrumentalisation de la migration et reconnaît la menace grave que celle-ci représente pour notre sécurité nationale. La Convention européenne des droits de l'homme, sur laquelle reposent les jugements de cette Cour, est un instrument vivant qui doit être interprété selon le contexte actuel.
Un argument qui a fait bondir Michael O'Flaherty, le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, qui fait rare, est intervenu comme tierce partie dans les trois affaires.
Certes, la Convention européenne est un instrument vivant, mais son interprétation ne peut pas remettre en cause ses principes fondamentaux. Et c'est mon rôle de rappeler au gouvernement où sont ces lignes rouges non négociables comme l'obligation de non-refoulement. On ne renvoie pas des gens s'ils risquent la torture ou tout autre traitement inhumain ou dégradant.
Inquiet aussi d'une remise en cause des droits fondamentaux, plusieurs représentants d'ONG ont suivi ces audiences. Nicolas Delvino d'Amnesty International a observé un changement de discours des gouvernements européens.
Jusque-là, les États niaient avoir recours au refoulement des demandeurs d'asile. Mais dans ces trois affaires-ci, non seulement les États l'assument, mais en plus, ils se justifient en introduisant cette pratique dans leur législation nationale. Depuis 2023, ces pays autorisent leurs gardes-frontières à renvoyer les migrants sans prendre en compte leur situation individuelle. Il est donc important que la Cour leur rappelle qu'ils ne peuvent pas ignorer le droit européen et international sous prétexte que cela figure dans leur législation et que ces dernières sont illégales à partir du moment où elles dérogent aux droits de l'homme.
Le jugement de la Cour ne sera rendu que dans plusieurs mois.
Reportage de Viloen Munoz-Boileau à réécouter ce soir dans l'émission Accent d'Europe à partir de 19h10 temps universel.
RFI Midi.
L'actualité européenne, c'est aussi le foot. Huitième de finale aller de la Ligue des Champions ce soir avec notamment à l'affiche un derby madrilène. Le Real Madrid reçoit l'Atlético avec un avantage psychologique puisque le Real a toujours gagné les matchs contre son voisin dans cette compétition. Pierre Chaperon.
Jamais dans son histoire en Ligue des Champions, l'Atlético de Madrid n'est sorti vainqueur d'une double confrontation face à son voisin du Real. Alors forcément, côté Colchoneros, le temps est à la prudence pour l'entraîneur Diego Pablo Simeone.
Je ne comprends pas le mot favori. Non seulement nous savons que nous allons affronter un rival important, mais nous connaissons aussi notre force. L'histoire du Real en Ligue des Champions est extraordinaire et nous avons, nous, une grosse opportunité.
L'histoire du côté du Real, en effet, 15 Ligues des Champions au compteur, un Real qui sort d'une piteuse défaite en championnat ce week-end, mais pour le journaliste de la télé nationale espagnole, Andrés Rubio, difficile de voir un favori.
Un derby reste un derby. On sait qu'en Ligue des Champions, le Real a l'habitude de jouer à fond. On est tous d'accord pour dire que ce club adore les soirées folles. Plus c'est difficile, plus il y a d'émotions.
Match au sommet pour Madrid, une ville coupée en deux pour ce choc où les stars comme Kylian Mbappé côté Real ou Antoine Griezmann pour l'Atlético voudront briller et continuer leur route dans la compétition. Pierre Chaperon, Madrid, RFI.
Real Madrid, Atlético, le match commence à 20h, temps universel. À la même heure, le PSV Eindhoven recevra Arsenal et Dortmund jouera contre Lille. Et puis un peu plus tôt, Bruges accueille Aston Villa. Comme chaque jour, rencontre avec une personnalité du monde de la culture. Aujourd'hui, l'auteur de bande dessinée Stéphane Bette-Bédé, dont le dernier livre évoque l'actrice Romy Schneider. Sa vie a déjà été racontée des milliers de fois, ses films, le rôle de Sissi, l'impératrice, ses amours aussi. Mais l'écrivain est fasciné par Romy Schneider et il veut raconter une autre partie de son histoire avant les flashs et le cinéma, puis sa découverte de ce milieu. Stéphane Bette-Bédé en parle à Elisabeth Le Carré. Stéphane Bette-Bédé, bonjour.
Bonjour Elisabeth.
Le sous-titre de votre bande dessinée dédiée à Romy Schneider, c'est « Je ne suis plus Sissi ». Donc ça déroule déjà le programme des réjouissances.
Le programme, c'est comment Romy est sortie de la chape de plomb que représentait Sissi dans sa carrière et comment elle est devenue l'actrice qu'on connaît.
Ça commence en 1945. Donc Romy Schneider est encore une toute jeune fille par cette histoire en fait que, dit-elle, sa famille a toujours tue. C'est quoi cette histoire ?
C'est parti d'une interview que j'ai lue dans le Stern, journal allemand, où Romy racontait que sa famille avait une maison de campagne juste en dessous du nid d'aigle d'Hitler. Elle a plus ou moins fantasmé que sa mère a été amante d'Hitler. Je pense que c'est une petite hallucination qu'elle s'est faite, mais n'empêche qu'elle a toujours vécu avec cette lourde culpabilité d'avoir une mère et un beau-père qui étaient sympathisants nazis.
Alors sa vie professionnelle, elle est toute jeune, hein, mais sa vie professionnelle va commencer très vite. Et vous décrivez, alors avant quelques tout petits rôles, hein, bien sûr, vous décrivez la première du rôle qui lui va changer sa vie. Sissi, c'est une révolution pour elle.
Oui, c'est une révolution. Ça fait d'elle une star incroyable. Ça fait une manne financière pour sa mère et son beau-père. Ce qui lui a permis, non pas de s'émanciper, mais de se prouver qu'elle était capable de réussir. Autant, sinon plus que sa mère. Et je pense que c'était important pour elle.
Alors ces années 50-60 que vous racontez, Stéphane Bette-Bédé, elles sont marquées par trois dates cruciales. La première, c'est évidemment Sissi, hein, donc un grand rôle qui va la lancer, faire d'elle une superstar internationale. On est en 55. En 58, c'est un film, Christine, mais c'est aussi évidemment la rencontre avec Alain Delon. Et votre bande dessinée se termine en fait au moment de sa rencontre avec Claude Sauté, donc en 70, les choses de la vie. Comment vous avez articulé ces trois pôles ?
En fait, cette émancipation se déroule par plusieurs phases. Et on parle de Christine, qui est le remake d'un film qui s'appelle Liebelei, dans lequel jouait sa mère. Là, je pense que c'était vraiment un acte fort qu'elle a posé, où elle reprend le rôle que jouait sa mère dans ce remake. Sa mère maire ne comprend pas pourquoi elle le fait, mais elle le fait, je pense, pour s'imposer en disant ben, « maintenant, c'est à moi de prendre ta place, en fait, quelque part ».
Et puis, Christine, c'est important, parce que c'est sa rencontre avec Alain Delon, donc ça va être une grande histoire d'amour, poursuivie par une grande histoire d'amitié, et ça vous permet aussi de toucher à l'intimité d'un couple d'acteurs. Ils sont tous les deux très jeunes, très beaux. C'est des superstars mondiales.
Au moment où elle rencontre Alain Delon, c'était elle la grande star, la superstar qui avait fait Sissi. Et Alain Delon était un inconnu. Quand ils se sont mis ensemble, ça a complètement changé. Alain Delon est devenu une superstar très rapidement. Et Romy travaillait plus ou peu, en fait. Et c'est grâce à lui qu'elle réussira à trouver le rôle qui va la relancer dans le cinéma, qui est le film La Piscine.
Vous vous êtes beaucoup documenté, Stéphane Bedbédé. Comment vous la voyez, rétrospectivement, Romy Schneider?
Je la vois comme une actrice qui s'est vraiment battue pour trouver sa place. Et c'est pas un hasard si elle est devenue une légende. C'est qu'elle a travaillé pour ça.
Stéphane Bedbédé, merci beaucoup.
Merci Elisabeth.
Stéphane Bedbédé au micro d'Elisabeth Le Quéré. Dans quelques minutes, un nouveau journal sur RFI, puis nous parlerons avec notre invité de cette décision de Donald Trump de suspendre les livraisons d'armes à l'Ukraine. Et puis à midi et demi, temps universel, comme chaque jour, l'actualité africaine, Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Cantner.
Avec à la une aujourd'hui.
En Tunisie, le procès de dizaines de personnalités accusées de complot contre l'État s'est ouvert ce matin. Une affaire d'exception dénoncée par la défense comme visant à étouffer toute contestation. L'audience a commencé sans les accusés qui sont en détention. Les autorités judiciaires avaient décidé qu'ils comparaîtraient par visioconférence.
À tout à l'heure, Nicolas Sûr.
Absolument.
On va écouter un peu de musique pour l'heure. Seni Camara et Cory Sesnek, joueuse de kora. C'est très rare, d'habitude cet instrument est plutôt joué par les hommes. Le morceau s'appelle Sarabaland et il est à découvrir ou à écouter en ce moment dans la playlist RFI. On a big rock and a mountain, you never change your sorrows. And little streams of alcohol come trickling down the round holes. On a big rock and a mountain, all the cops have wooden legs. And the hound dogs all have rubber feet. Sarabaland de Seni Camara et Cory Sesnek, les joueuses de kora à écouter en ce moment dans la playlist RFI. Vous restez avec nous, on se retrouve dans une minute pour le journal.
Bye.
RFI Midi.
Afro Club, le hit des platines avec DJ Facemaker.
Je vous retrouve deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, dans l'Afro Club, terrain incontournable des musiques afro-urbaines d'Afrique et de ses diasporas. Deux fois plus de groove, une séquence rétro indispensable et en prime, une vidéo des tendances de la semaine à voir sur RFI Musique et tous nos réseaux sociaux.
Afro Club, le hit des platines avec DJ Facemaker. Tous les mardis et jeudis dans Afrique Soir.